on lit l'épître aux Hébreux dans l'attitude du psaume 45. Ce psaume 45 nous présente le bien-aimé. Et ainsi, c'est le langage de l'amour, l'affection. Et dans cet épître, nous voyons le Seigneur comme le bien-aimé dans sa grandeur. Et nous aimons le connaître davantage, comme on voit par exemple dans Cantique des Cantiques, chapitre 5. Donc, que nous puissions lire et étudier avec cette attitude d'affection et d'émerveillement. Hébreux 5, car tout souverain sacrificateur pris d'entre les hommes est établi pour les hommes dans les choses qui concernent Dieu, afin qu'il offre et des dons et des sacrifices pour les péchés, étant capable d'avoir de l'indulgence pour les ignorants et les errants, puisqu'il est aussi lui-même enveloppé d'infirmité. Et à cause de cette infirmité, il doit offrir pour les péchés, comme pour le peuple, ainsi aussi pour lui-même. Or, nul ne s'arroge cet honneur, mais seulement s'il est appelé de Dieu, ainsi que le fut aussi Aaron. De même, le Christ aussi ne s'est pas glorifié lui-même pour être fait souverain sacrificateur, mais celui-là l'a glorifié qui lui a dit, « Tu es mon Fils, moi je t'ai aujourd'hui engendré. » Comme il dit aussi dans un autre passage, « Tu es sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek, qui durant les jours de sa chair, ayant offert avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, quoiqu'il fût fils, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Ayant été consommé, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur du salut éternel, étant salué par Dieu, souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, au sujet duquel nous avons beaucoup de choses à dire et qui sont difficiles à expliquer, puisque vous êtes devenus paresseux à écouter. Car lorsque vous devriez être des docteurs, vu le temps, vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne quels sont les premiers rudiments des oracles de Dieu. Et vous êtes devenus tels que vous avez besoin de lait et non de nourriture solide. Car quiconque use de lait est inexpérimenté dans la parole de la justice, car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, qui par le fait de l'habitude ont les sens exercés à discerner le bien et le mal. Jusqu'ici, la lecture de la parole. On rappelle que cet épître nous présente la grandeur du Seigneur Jésus, la grandeur dans sa personne, plus grand que Moïse, plus grand qu'Aaron, plus grand que Josué, etc. Plus grand. Ensuite, la deuxième partie de l'Hébreu nous présente la grandeur de son sacrifice. Et la troisième partie nous le présente comme le grand conducteur qui nous conduit dans la présence de Dieu, qui nous conduit à travers le désert, qui nous conduit en dehors du camp. Donc ces trois divisions de l'épître, la grandeur de la personne, la grandeur de son sacrifice et la grandeur de son ministère, résument un peu cet épître. Ici, on est au milieu de cette présentation du Seigneur Jésus comme sacrificateur. On a vu que l'épître a commencé avec une présentation du Seigneur Jésus comme apôtre, celui qui présente la parole de Dieu. Et même dans la gloire, aujourd'hui, le Seigneur Jésus est le grand apôtre parce que c'est par lui que Dieu communique ses pensées, il révèle ses pensées, par son esprit aussi, évidemment. Et on a vu, chapitre 3, verset 1, que le Seigneur à ces deux ministères, considérer l'apôtre et le souverain sacrificateur. On a vu l'apôtre, c'est ensemble avec Moïse. Donc, c'est par l'apôtre que Dieu révèle ses pensées. On a vu au premier chapitre que le Seigneur Jésus est l'apôtre de Dieu, de la part de Dieu, mais il est Dieu lui-même aussi. Donc, on a vu sa grandeur de cette façon-là. Chapitre 2 a commencé par parler déjà du souverain sacrificateur. Et je résume brièvement, le Seigneur est souverain sacrificateur de trois façons. Sur la terre, à la croix, une fois pour toutes. Il était souverain sacrificateur par rapport à l'œuvre pour les péchés. On verra plus tard que par le fait que le Seigneur Jésus était de la tribu de Judas, qui ne pouvait pas fonctionner comme sacrificateur sur la terre pendant sa vie. Donc, il était dans sa vie souverain sacrificateur, mais seulement à la croix. Ça va ensemble avec chapitre 2, verset 17 et 18. Et il y a plusieurs références encore à cela dans cette épître. Ensuite, nous avons vu que le Seigneur Jésus est sacrificateur présentement, selon l'ordre d'Aaron, mais il est aussi selon l'ordre de Melchisédek. Si je dis selon l'ordre d'Aaron, il faut me corriger, parce que le Seigneur Jésus exerce la sacrificature selon l'image d'Aaron. Mais la position du Seigneur Jésus est la position de Melchisédek, un ordre nouveau. Mais il y a beaucoup de ressemblances pratiquement avec le service d'Aaron. Puis on verra donc quelques détails de cela ce soir dans chapitre 5 et plus tard aussi chapitre 7. On a vu la dernière fois, à la fin du chapitre 4, le ministère présent du Seigneur Jésus comme souverain sacrificateur qui sympathise à nos infirmités. 4, verset 15. On a vu, il ne peut pas sympathiser avec nos péchés. Il est mort pour nos péchés, une fois, à la croix. C'est son service sur la terre. Maintenant, dans la gloire, il sympathise avec nous, mais c'est avec nos infirmités. Et on a vu, une infirmité peut nous amener au péché. Le Seigneur peut nous aider afin qu'on ne pêche pas. Et si une infirmité amène au péché, ce n'est pas la faute du Seigneur, c'est notre faute. Maintenant, chapitre 5, on verra encore des similitudes, des parallèles entre Aaron et le Seigneur, mais aussi des contrastes très remarquable. Donc, si j'ai dit le Seigneur exerce aujourd'hui la sacrificature selon Aaron, c'est vraiment pas selon l'ordre d'Aaron, mais c'est selon les illustrations qu'on a dans Aaron. Bien qu'en même temps, il y ait de grandes différences. Et ensuite, plus tard, on verra plus de détails sur l'ordre de Melchisédek, qui est déjà mentionné dans ce chapitre, mais développé dans chapitre 7. Et on verra pourquoi. Donc, le premier verset, « Tout souverain sacrificateur pris d'entre les hommes est établi pour les hommes. Aaron était pris d'entre les hommes, et ainsi le Seigneur Jésus a été pris d'entre les hommes. Il était homme comme vous et moi, à part le péché. On a vu cela la dernière fois. Quand même, il y a un grand contraste. Parce que Dieu a dit de cet homme, tu es mon fils. Verset 5, au milieu du verset 5. Vous voyez le contraste? Dieu n'a jamais dit à Aaron, tu es mon fils. Moi, je t'ai aujourd'hui engendré. Jamais. Donc, d'un côté, oui, le Seigneur Jésus a été pris d'entre les hommes. Il était homme comme vous et moi, à part le péché. D'un autre côté, il y a un contraste très remarquable. Il n'y a aucun sacrificateur comme Aaron et ses descendants auquel Dieu a dit, tu es mon fils, moi je t'ai aujourd'hui engendré. Et on verra encore un autre contraste un peu plus loin au verset 10. étant salué par Dieu, souverain sacrificateur. Ce n'était jamais le cas avec Aaron, mais c'est le cas avec le Seigneur Jésus. Et on voit ici le lien avec ce nouvel ordre, selon l'ordre de Melchizedek. Au milieu du premier verset, il est dit « établi pour les hommes dans les choses qui concernent Dieu ». Donc on voit ici, un sacrificateur est entre les hommes et Dieu. Il est établi pour les hommes, pour prendre les besoins, les causes de l'homme sur lui. Mais il est établi aussi dans les choses qui concernent Dieu. Donc dans ce sens-là, il est comme un intermédiateur. Il est entre Dieu et les hommes. Et ce que nous voyons avec le Seigneur Jésus, parfaitement homme, pour prendre la cause de l'homme sur lui, parfaitement Dieu, pour prendre les intérêts de Dieu sur lui. À la fin du premier verset, afin qu'il offre et des dons et des sacrifices pour les péchés. Le mot qu'il est utilisé ici, le verbe, afin qu'il offre, c'est un verbe qui revient souvent. Et il y a donc un parallèle, comme Aaron a offert des dons et des sacrifices, le Seigneur Jésus a offert un don et un sacrifice. Voilà en même temps un contraste. Le Seigneur n'a pas donné un sacrifice à quelqu'un d'autre, il s'est donné lui-même un sacrifice. Quel contraste ! On verra cela dans chapitre 9 et 10. Une fois pour toutes, ici, les sacrifices, vous voyez, à la fin du premier verset, afin qu'il offre des dons et des sacrifices pour les péchés, ça, c'est déjà une référence à ce service interminable qui continue tout le temps. Chaque année, le souverain sacrificateur devait présenter un sacrifice pour le péché, le grand jour de la propitiation. Ce n'était jamais parfait, parce que le lendemain, quelqu'un pouvait pécher, puis il fallait recommencer tout. Donc il y a de grands contrastes, parce qu'on verra plus tard que l'œuvre du Seigneur Jésus était une fois pour toutes. Pour offrir des dons, on peut penser aussi, par exemple, au gâteau qui était présenté. Dans Lévitique 2, nous voyons un exemple de cela. Ce gâteau qui nous parle de la vie du Seigneur Jésus. Ainsi, on voit dans ce service aaronique beaucoup de détails quand même qui nous parlent du Seigneur Jésus. Donc, c'est peut-être un peu compliqué. D'un côté, il y a des parallèles. D'un côté, il y a des choses, même dans le service d'Aaron, qui nous parlent du Seigneur Jésus. De notre côté, il y a de grands contrastes. Verset 2. Étant capable d'avoir de l'indulgence pour les ignorants et les errants. Donc, le sacrificateur était un homme, et ainsi, il pouvait avoir l'indulgence pour les autres hommes. Mais le Seigneur Jésus, comme homme, pouvait aussi avoir de l'indulgence. Mais il était sans péché. On a vu cela, chapitre 4, verset 15. À part le péché. Il était comme nous, à part le péché. Et comme homme, il pouvait être indulgent. Pour les ignorants et les errants. Ça, c'est un thème important dans l'Épître aux Hébreux. Dans l'Épître aux Hébreux, si quelqu'un pêche, soit il est supposé d'être ignorant ou errant, il y aura des remèdes, soit, et on verra cela la prochaine fois au chapitre 6, c'est avec la propre volonté, c'est sachant ce qu'il fait, et là il n'y aura pas d'autre sacrifice. Donc je veux garder cet élément-là pour la prochaine fois au chapitre 6, on voit cet élément-là, je veux juste le mentionner. Si quelqu'un fait cela, il n'est pas seulement errant, mais il pêche vraiment, c'est la rébellion, verset 6 du chapitre 6, qui sont tombés, soient renouvelés encore à la repentance, crucifiant pour eux-mêmes le Fils de Dieu et l'exposant à leur corps. À la croix, le Seigneur Jésus a prié, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils étaient ignorants, selon cette prière du Seigneur Jésus, et errant. Là, Dieu peut encore avoir de l'indulgence et utiliser de la patience Mais si quelqu'un rejette ce sacrifice du Seigneur Jésus, si quelqu'un s'endurcit, il sait qu'il rejette cette œuvre du Seigneur Jésus. Il est au courant de cela. Là, il n'y a plus de sacrifice. C'est ça la pensée de l'Épître aux Hébreux. Maintenant, au milieu du verset 2, pourquoi le souverain sacrificateur pouvait être indulgent, puisqu'il est aussi lui-même enveloppé d'infirmité? Vous voyez, il est un homme comme les autres hommes. Il comprend la situation du pécheur. Mais là, quel contraste avec le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus était un homme comme vous et moi, mais il n'était pas enveloppé d'infirmité. Il pouvait être indulgent envers les ignorants, les errants, mais il n'était pas enveloppé d'infirmité. Verset 3, à cause de cette infirmité, il va offrir pour les péchés. Notons maintenant, comme pour le peuple, ainsi aussi pour lui-même. Quel contraste avec le Seigneur Jésus. Parallèle, il a offert pour les péchés. Et on verra plus tard, une fois pour toutes. Voilà un parallèle. Pour le peuple. On a vu cela déjà au chapitre 2, verset 17. Mais là, quel contraste. Pas pour lui-même. Dans Lévitique 16, nous voyons que le souverain sacrificateur a offert pour lui-même. Il a aussi offert pour lui-même lorsqu'il a été inauguré dans son service, Lévitique 9 par exemple. Mais le Seigneur Jésus n'avait pas besoin d'un sacrifice pour lui-même. Donc quel contraste. Verset 4. Or, nul ne s'arroge cet honneur. C'est clair ici, l'auteur veut établir ce point-là. Un homme peut être appelé de Dieu, mais il ne peut pas réclamer ce service pour lui-même. Aaron ne pouvait pas un jour dire à Moïse, « Moïse, moi je vais être sacrificateur, ça me convient, je vais être... » Non, il fallait qu'il soit appelé de Dieu. Voilà le parallèle avec le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus était appelé de Dieu. Verset 5. Mais en même temps, quel contraste, comme j'ai dit déjà au début, Dieu n'a jamais dit à Aaron, tu es mon fils, moi je t'ai aujourd'hui engendré. Jamais. Donc, un appel de Dieu, mais en même temps, un contraste énorme. Verset 5. De même, le Christ aussi ne s'est pas glorifié lui-même pour être fait souverain sacrificateur, mais celui-là l'a glorifié, qui lui a dit, tu es mon fils. Il y a deux choses que j'aimerais souligner ici. Le Seigneur Jésus est fils éternel dans le sein du Père, mais ça, ce n'est pas le sujet ici. Ici, l'emphase est mise sur son humanité. Comme homme, il est appelé fils de Dieu. Tu es mon fils. Et l'ange Gabriel a dit déjà dans Luc 1, il sera grand, il sera le fils de Dieu, il sera grand. Donc il faut distinguer entre le fils éternel, comme dans Jean, le fils unique, et ici le fils dans le temps. Ça, c'est un sujet très difficile à comprendre, on ne peut pas vraiment saisir, mais l'emphase ici, c'est sur le fait que le Saint Jésus était dans cette relation avec Dieu comme homme. Et Dieu l'a vu comme homme aussi, comme mon fils. Mais ça ne met pas de côté ni sa déité, ni le fait qu'il avait cette relation éternelle entre le Père et le Fils. Ce sont des mystères pour notre intellect, mais ce sont des réalités pour la foi. Ça nous amène à adorer le Seigneur Jésus. Donc sa grandeur, sa dignité est soulignée ici. Comment ? Ensuite, au verset 6, il est dit, comme il dit aussi dans un autre passage, tu es sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. Donc ce qu'on voit ici, l'auteur prend le psaume 2, qui est cité aussi par Paul, par exemple, dans Acte 13, comme un verset clé pour comprendre la position du Seigneur Jésus. Ensuite, il ajoute une autre pensée du psaume 110, où nous voyons que le Seigneur Jésus n'est pas seulement entre les hommes, mais qu'il est sacrificateur selon un ordre nouveau, qui dépasse entièrement l'ordre d'Aaron. Et on verra plus tard, chapitre 7, plus de détails là-dessus. Donc le Seigneur est présenté ici déjà comme unique dans son service comme sacrificateur. Je souligne ici pour l'éternité. Tu es sacrificateur pour l'éternité. Et on revient encore à cette pensée de l'éternité au verset 9, un salut éternel. Il y a beaucoup d'emphase sur l'éternité dans cette épître. Une rédemption éternelle, 13 verset 20 ou 21. Et ici, il est sacrificateur pour l'éternité. Personne sur la terre pouvait être sacrificateur pour l'éternité. Aaron était sacrificateur pour un temps. Donc, c'est un nouvel ordre, selon l'ordre de Melchisédek. Ça représente un caractère unique, c'est un ministère qui ne peut pas être transmis à quelqu'un d'autre, ça appartient au Seigneur seul, unique. Et c'est éternel, c'est un ministère éternel. Il aura ce ministère pour toute l'éternité. Ensuite, le verset 7, qui durera les jours de sa chair. Donc, peut-être je peux dire ceci. D'abord, on voit son office par rapport à sa grandeur. Tu es mon fils, tu es sacrificateur. C'est son office qui va ensemble avec la grandeur de sa personne. Mais ensuite, au verset 7, on voit l'expérience de ce sacrificateur, ce qu'il a expérimenté ici dans les jours de sa chair, qui nous montre aussi sa grandeur, beaucoup plus grand qu'Aaron. Durant les jours de sa chair, on a des détails dans Lévitique 2. J'ai mentionné les gâteaux qui sont présentés là comme sacrifice. Là, on voit des détails des jours de sa chair, ses souffrances en détail. Mais ici, nous avons des références à la réalité, comme le Seigneur Jésus a souffert dans sa vie. Et maintenant, ayant offert, c'est le même verbe qu'on a eu au premier verset, qu'il offre et des dons et des sacrifices. Donc, ça veut dire que ce que le Seigneur a offert ici à Dieu, avec de grands cris et avec larmes, avait une grande valeur à Dieu, une grande valeur. Comme Dieu a vu le Seigneur Jésus dans le jardin de Gethsémané, où nous voyons ses grands cris et ses larmes déjà, ça a eu une grande valeur. Mais ici, l'auteur trace la ligne encore plus loin, jusqu'à la croix. Si on lit le psaume 22, là nous voyons ses grands cris et ses larmes. C'est clair, le Seigneur Jésus était l'homme de douleur, Isaïe 53. On le voit souvent en pleurant dans les évangiles. Mais je pense ici, l'emphase est mise vraiment sur l'œuvre de la croix. Le Seigneur a prévu cela. Il y a un beau verset dans Luc 12, verset 50, qui nous donne un peu de détail de ces souffrances intenses. Luc 12, verset 50. Moi, j'ai à être baptisé d'un baptême, et combien suis-je à l'étroit jusqu'à ce qu'il soit accompli. Vous voyez, c'est dans les jours de sa chair que le Seigneur Jésus a expérimenté ses souffrances intenses. Mais ces souffrances-là ne sont pas encore les souffrances expiatoires, de l'œuvre expiatoire. Cette œuvre expiatoire était seulement les trois heures sombres de la croix. Donc on a ici peut-être une référence d'abord à Gethsémané, où le Seigneur Jésus a souffert par anticipation, il a vu les souffrances qui seraient sa part, il a souffert par anticipation. Ensuite, on peut penser aux 3 heures à la croix, les premières heures, donc 1, 2 et 3, et le Seigneur a souffert sous la main de l'homme et sous l'attaque de l'ennemi. Mais ici, il y a aussi une référence à ses souffrances à la croix dans les 3 heures sombres où Dieu l'a abandonné. Et dans le psaume 22, le Seigneur Jésus crie, comme ici il dit, avec de grands cris, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, te tenant loin de mon salut ?» Des paroles de mon rugissement. Mon Dieu, je crie de jour, mais tu ne réponds point, et de nuit, il n'y a point de repos pour moi. Ça, c'est les 3 heures sombres. Mais qu'est-ce qu'on lit ensuite? Des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et on répète, surtout le psaume 22, mais aussi Ésaïe 53 donne des détails. Et ensuite, l'auteur continue. Ayant été exaucé à cause de sa piété. Exaucé, on voit cela déjà dans le psaume 22, verset 20. Il crie encore, délivre mon âme de l'épée, mon unique de la patte du chien, sauve-moi de la gueule du lion, 21. Ensuite, au milieu du verset 21, tu m'as répondu d'entre les cornes des buffles. Donc Dieu a exaucé. Il l'a exaucé à cause de sa piété, comme ici Hébreu le dit. Et ensuite, psaume 22, 24, car il n'a pas méprisé ni rejeté l'affliction de l'affligé. Il n'a point caché sa face de lui. Mais quand il a crié vers lui, il a écouté. Donc, ça veut dire que après les 3 heures sombres, Dieu a quand même répondu. Et le Seigneur Jésus était conscient de cela, clairement. Lorsqu'il a reposé sa tête, il savait que Dieu l'avait répondu. Donc maintenant, ce mot, à cause de sa piété. Le mot piété, la note dit crainte, mais le mot piété veut dire vraiment être dans la crainte de Dieu. Réaliser la présence de Dieu tout le temps. Ce mot est utilisé souvent dans Timothée et nous voyons aussi dans les psaumes d'autres mots qui sont utilisés où nous voyons cette attitude de piété du Seigneur Jésus qui est très remarquable dans les psaumes. Maintenant, j'aimerais encore souligner de la mort. Donc, Dieu était capable de le sauver de la mort, mais il fallait qu'il passe à travers la mort. Donc, ici, j'aimerais suggérer la résurrection du Seigneur Jésus est aussi impliquée. La réponse de Dieu était démontrée dans la résurrection. Mais comme j'ai dit tantôt, le Seigneur le savait déjà à la fin des 3 heures sombres, lorsqu'il a reposé sa tête, il savait que Dieu l'avait exaucé. Mais dans la résurrection, Dieu a donné la preuve publique de cela. Et nous voyons comment Dieu a apprécié la vie du Seigneur Jésus, sa piété. Donc une vie qui était tellement dévouée aux intérêts de Dieu que Dieu ne pouvait pas se taire. Il fallait que Dieu réponde à un tel homme à cause de sa piété. Maintenant, il y a une expression difficile à comprendre. Quoi qu'il fût fils. Donc, je pense, ça souligne le point. Oui, le Seigneur Jésus était le Fils éternel. Il est co-égal avec le Père. Mais ça, ce n'est pas le sujet ici, comme j'ai dit tantôt. Tu es mon Fils, c'est pour souligner le bon plaisir que Dieu a trouvé dans le Seigneur Jésus comme homme. Et comment Dieu a vu tout cela, sa piété, comment Dieu a eu son bon plaisir en lui lorsqu'il a considéré sa piété. Et quoi qu'il fût fils, ça va aussi ensemble avec le verset 8, la question de l'obéissance. Il est dit, quoi qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Donc nous avons ici quelques versets qui nous présentent la perfection du Seigneur Jésus dans son humanité. Et pour comprendre maintenant le sujet de l'obéissance, Paul souligne ici que le Seigneur Jésus était le Fils éternel et que, comme Fils, il était habitué à donner des ordres. Le Créateur de l'univers, on a vu cela, chapitre 1, verset 3 déjà. Donc, pour une telle personne, être dans une position où il a dû obéir, c'est un changement radical. Au lieu de donner des ordres, il fallait qu'il obéisse. Mais maintenant, il faut faire attention. Ce n'est pas parce que le Seigneur Jésus avait la tendance de désobéir. Ce n'est pas du tout la suggestion. La suggestion ici, c'est qu'il a pris une place où il fallait qu'il obéisse. Comme homme, il fallait qu'il obéisse à Dieu. C'est ça le point qu'on a vu déjà plusieurs fois. Et l'auteur met l'emphase sur cela. On pense à Isaac. Abraham a pris son fils pour le sacrifier. On ne lit aucun mot de proteste de la part d'Isaac. Isaac a simplement obéi. Et ainsi, le Seigneur Jésus a toujours obéi. Luc 2, il dit, « Ne savez-vous pas que je dois être dans les choses, les affaires de mon Père ?» Il a toujours obéi, toujours cherché les intérêts de Dieu. Mais je répète, comme Dieu, le Fils éternel, il est égal au Père. Dans Jean, dans l'évangile de Jean, chapitre 5, par exemple, il mentionne cela, il montre cela clairement. Ça, ce n'est pas le sujet ici. C'est le point qu'il a pris, malgré le fait qu'il soit Fils éternel, malgré le fait qu'il soit aussi comme homme appelé Fils de Dieu, il a pris une place d'obéissance, pour obéir. Mais je répète, pas pour avoir l'idée qu'il a dû apprendre à obéir parce qu'il avait la tendance de désobéir. Non. Dans une position de soumission, il a toujours obéi. Même par les choses qu'il a souffertes, comme il est dit ici. Le Seigneur a souffert beaucoup. On ne peut pas vraiment entrer dans tous les détails de ses souffrances. Mais la parole de Dieu nous invite d'étudier ses souffrances. Mais il y a un domaine où nous ne pouvons pas entrer, ça c'est les trois heures sombres de la croix. Mais dans les autres détails des souffrances du Seigneur Jésus, l'Esprit de Dieu veut nous introduire dans ces choses, dans les psaumes, dans les évangiles, pour que nous puissions comprendre davantage les choses que le Seigneur Jésus a souffertes. Et c'était pour la gloire de Dieu. Le Seigneur a souffert pour la gloire de Dieu. Et ensuite, ayant été consommé, donc il a commencé un chemin d'obéissance, dès la crèche jusqu'à la croix, mais il a complété ce chemin d'obéissance. Et consommé, rendu parfait, maintenant il est vu comme homme dans la perfection. Et on verra plus tard, par exemple dans Hébreux 12, que le Seigneur Jésus a atteint cet état de perfection, il est dans la gloire, et on a vu déjà chapitre 2, verset 9, couronné de gloire et d'honneur. Il a atteint ce but. Mais ici, il est dans ce chemin-là, pour arriver là. Et c'était donc un processus. Mais je répète, il n'y a aucune pensée là que le Seigneur Jésus avait la tendance de manquer. Non. Dans ce chemin, dans ses tests, dans ses épreuves, dans ses souffrances, il était toujours parfait, toujours parfaitement obéissant et toujours parfait, parfait. De quelque façon, on l'étudie, toujours parfait. Mais il a atteint la perfection, il a atteint le but final de ce chemin-là. Ça, c'est la pensée de consommer. Il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur du salut éternel. Maintenant, c'est notre tour d'obéir. Et nous pouvons lui obéir comme il a obéi à Dieu, comme homme obéi à Dieu, nous pouvons lui obéir par la foi. Il y a un verset intéressant dans Jean 3, verset 36. Qui croit au Fils a la vie éternelle. Qui ne croit pas au Fils ou qui désobéit le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc la question d'obéissance est vraiment une question de foi, comme Jean 3, 36 le montre et d'autres passages. Et nous pouvons maintenant suivre l'exemple du Seigneur Jésus. Mais je répète, pas pour ensuite souffrir comme lui, comme il a souffert à la croix. Non. Là, il est unique et là, il a fait pour tous, une fois pour toutes. Mais nous, suivons le Seigneur Jésus et ce sera aussi un chemin de souffrance. Et il est notre grand conducteur. Et c'est ce qu'on voit dans chapitre 11, 12 et 13 plus tard en détail. Il est devenu l'auteur du salut éternel. Ici, ce n'est pas le mot auteur comme on trouve dans chapitre 12, le prince ou l'auteur, mais il est devenu la cause de notre salut éternel. Et le mot salut, je pense, revient 7 fois dans cet épître. Le mot salut, c'est un mot très riche. C'est le salut pour le temps, mais ici, c'est le salut éternel. Donc, l'effet définitif de ce salut, le salut vu dans ses dimensions éternelles. Maintenant, j'aimerais encore revenir au verset 10, étant salué par Dieu. Donc, nous voyons ici les expériences du Seigneur Jésus à l'école de Dieu, durant les jours de sa chair, il a souffert, Gethsémané, il a souffert, à la croix, il a souffert, mais il a toujours montré l'obéissance dans les choses qu'il a souffert. Il a toujours eu à cœur les intérêts de Dieu, sa piété. Et ainsi, Dieu l'a exaucé. On a vu cela. Il atteint maintenant la fin du chemin. Il est maintenant consommé. Et dans cette nouvelle position que le Seigneur Jésus a prise, il est devenu pour nous, tous ceux qui lui obéissent, l'auteur du salut éternel, la cause d'un salut éternel, qui est notre part déjà maintenant. Ce n'est pas qu'on doit encore faire beaucoup d'efforts pour atteindre ce salut éternel, nous l'avons reçu par la foi. Maintenant, il revient encore à la position actuelle du Seigneur Jésus, au verset 10, étant salué par Dieu, souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Donc c'est cette position merveilleuse que le Seigneur Jésus occupe présentement, et cette position sera expliquée plus tard en détail. Donc je répète, c'est une position éternelle, une position unique. Ça représente l'excellence du Seigneur Jésus, sa suprématie. Mais on aura beaucoup plus de détails au chapitre 7. J'aime le mot saluer. Donc Dieu l'a glorifié. Dans Jean 17, le Seigneur Jésus a prié que Dieu le glorifie. Il a dit, je t'ai glorifié sur la terre. Et Père, glorifie-moi maintenant avec la gloire que j'avais avec toi, même avant la fondation du monde. Et ici, on voit aussi comment Dieu a glorifié le Seigneur Jésus en saluant. Donc il faut voir le Seigneur entre dans le ciel. Il monte dans la gloire, l'ascension. Et voilà, la porte du ciel s'ouvre, Dieu est là pour saluer un homme. Il est Dieu lui-même, béni sur toutes choses. Mais Dieu a salué un homme ici dans le ciel. Il a dit, assieds-toi à ma droite. Dieu l'a salué. Et ici comme souverain sacrificateur. Donc quel contraste, on a vu cela déjà avec Aaron et les autres souverains sacrificateurs sur la terre. Selon l'ordre de Melchisédek, maintenant, il y a une parenthèse au sujet duquel nous avons beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Et on verra plus tard, depuis chapitre 7, premier verset, jusqu'au chapitre 10, verset 18, c'est quatre chapitres presque. Il a beaucoup de détails sur le Seigneur Jésus comme souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Donc Paul veut dire encore beaucoup de choses, mais il s'interrompt, pour ainsi dire, ici. Pourquoi est-ce qu'il s'interrompt? Pourquoi il ne peut pas simplement continuer? À cause de la condition spirituelle des croyants auxquels il s'adresse. Parce qu'il dit au verset 11, ces choses sont difficiles à expliquer. Pourquoi ils sont tellement difficiles? Elles sont tellement difficiles parce que vous êtes devenus paresseux à écouter. Donc il adresse ici l'état spirituel. Dans cet état-là, il ne pouvait pas s'approprier de ces choses. Ça nous montre la sagesse de l'apôtre Paul, mais dirigé par l'Esprit Saint, évidemment. Il n'étale pas ici toutes ces beautés du Seigneur Jésus, il attend. Il veut d'abord adresser l'état spirituel de ceux qui écoutent. Parce que j'ai dit déjà au chapitre 2, c'est comme un discours, un long discours, plus long que ce soir, et il s'adresse aux croyants parmi les Hébreux. Il s'adresse aussi aux croyants aujourd'hui. Mais il réalise leur condition spirituelle devant Dieu et il travaille maintenant pour remédier à cette condition-là, pour que ça s'améliore d'abord. Et ensuite, ils seront capables de recevoir cet enseignement. Et ainsi, il y a beaucoup de sagesse dans cela. Nous avons cinq passages qui sont appelés quelquefois les avertissements. On a vu chapitre 2, 1 à 3, c'est le premier avertissement. Ensuite, on a vu chapitre 3, au milieu du verset 6, jusqu'au 4, 13, on a mentionné cela la dernière fois, une deuxième parenthèse, pour adresser la condition spirituelle des croyants. Ici, troisième parenthèse. Et ça se continue jusqu'à la fin du chapitre 6. Et on verra la prochaine fois comment Paul distingue là entre des auditeurs qui n'étaient pas nés de nouveau et des auditeurs qui étaient nés de nouveau. Il distingue. On verra cela au chapitre 6. Mais il met beaucoup d'emphase ici sur leur condition spirituelle. Ce n'est pas comme à l'école. À l'école, un professeur enseigne simplement. Et ça n'a rien à faire avec la condition morale des étudiants. C'est juste une question d'intellect. Mais ici, ce n'est pas seulement une question d'intellect, c'est une question aussi de notre état spirituel. Et malheureusement, il doit dire ici, vous êtes devenus paresseux. Donc, il ne faisait pas de progrès. C'était stagnant. C'est un peu comme dans l'épître aux Galates. Les Galates, ils ont bien couru, Paul dit, à un moment donné, il dit, vous avez bien couru. Qui vous avez arrêté? Qui est celui qui vous a arrêté? Et là, nous voyons, c'était le légalisme. Et j'aimerais référer à ce passage-là, parce que au chapitre 4, il dit, d'un côté, il compare cet état-là avec quelqu'un qui est l'héritier, mais il n'est pas encore capable d'administrer son héritage. Il est sous le contrôle des tuteurs et des curateurs jusqu'à l'époque fixée par le Père. Donc, ce bas âge, il compare avec une condition charnelle. Les croyants, les Galates, étaient dans une telle condition. Et c'est pour ça que Paul dit dans Galates 4, verset 19, « Mes enfants, pour l'enfantement desquels je travaille de nouveau, jusqu'à ce que Christ ait été formé en vous. » Paul cherchait leur progrès spirituel. Et il a travaillé beaucoup. Un autre exemple, dans Colossiens 1. Colossiens 1, et dans chapitre 2, nous voyons tous les dangers et l'influence des dangers a causé comme un ralentissement dans la croissance des Colossiens. Et Paul priait pour eux, comme ce frère qui était au milieu d'eux aussi, Epaphras. Il priait beaucoup pour finalement présenter, Colossiens 1, verset 28, afin que nous présentions tout homme parfait en Christ, à quoi aussi je travaille, combattant selon son opération qui opère en moi avec puissance. Car je veux que vous sachiez quel combat j'ai pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et tous ceux qui n'ont point vu mon visage en la chair, afin que leur cœur soit consolé. Donc Paul a vraiment à cœur la condition spirituelle des croyants. Et dans ce contexte, nous devons voir aussi Hébreux 5 ici. Paul réalise, si la condition spirituelle n'est pas bonne, je ne peux pas donner cet enseignement concernant le Seigneur Jésus comme le grand Mélchisédek. Il faut d'abord qu'il soit prêt à recevoir cet enseignement. Verset 12. Car lorsque vous devriez être des docteurs, vu le temps, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne. Quels sont les premiers rudiments des oracles de Dieu? Paul met donc un contraste entre cet enseignement qu'il veut donner et le fait qu'il avait encore besoin de retourner au premier rudiment des oracles de Dieu. On verra au chapitre 6 quelques détails là-dessus. Au milieu du verset 12, « Et vous êtes devenus tels que vous avez besoin de lait et non de nourriture solide. Car quiconque use de lait est inexpérimenté dans la parole de la justice. » Maintenant, il faut comprendre, la parole de la justice, c'est la parole qui nous parle de Christ dans la gloire, qui nous parle de Christ dans son ministère comme le grand Mélchisédek. C'est la parole de la justice. Mais les croyants, là, les Hébreux, ne pouvaient pas encore manger cette nourriture solide. Cette nourriture solide, verset 14, est pour les hommes faits, qui par le fait de l'habitude ont les sens exercés à discerner le bien et le mal. Donc, les hommes faits, on a vu dans Colossiens, c'est la maturité spirituelle. Et dans cette condition spirituelle, on peut recevoir cet enseignement de Paul. C'est pour cela qu'il avait à cœur, dans l'Épître aux Galates, qu'il soit né de nouveau, mais il était déjà né de nouveau, mais qu'il y ait un travail de Dieu pour que Christ soit formé en eux. Paul avait vraiment un amour pour les croyants, pour qu'ils puissent faire des progrès. Et nous avons tous besoin de faire des progrès. Mais j'aimerais dire quelque chose sur cette question du lait au verset 12. Donc, le lait va ensemble avec les oracles de Dieu, les rudiments. Et ainsi, dans le contexte de l'Épître aux Hébreux, le lait veut dire vraiment les principes que Dieu a établis dans le judaïsme. Et on verra cela au chapitre 6. Dieu ne met pas de côté des principes de base qu'il a établis, par exemple la question de la repentance ou la foi ou la résurrection. Mais Dieu ajoute beaucoup plus à ça. Et c'est ça l'enseignement de l'Épître aux Hébreux. Donc, on verra, d'un côté, Dieu met de côté le judaïsme comme religion qui a rejeté le Messie. Mais le judaïsme, comme Dieu a établi au début par Moïse, est comparé avec le lait. C'est une forme de nourriture. Dieu a commencé par ça. Mais Dieu veut aller beaucoup plus loin. Et c'est ça qu'on voit dans l'Épître aux Hébreux. Donc, ça c'est le contexte direct. Le lait nous parle ici des principes du judaïsme qu'on verra au début du chapitre 6, qui était bon en soi, mais Dieu avait maintenant de meilleures choses. Dans 1 Corinthiens 3, Paul dit aux Corinthiens qu'ils avaient besoin du lait à nouveau. Là, Paul souligne cela parce que il parle de leur état charnel. Et à cause de leur état charnel, ils ne pouvaient pas faire des progrès et ils avaient besoin d'être nourris par le lait. Le lait, là, veut dire la nourriture spirituelle pour un jeune croyant. Mais dans 1 Pierre 2, nous avons encore le lait. Et là, c'est vraiment très beau. 1 Pierre 2, verset 2. On met de côté la médisance, l'hypocrisie. Est-ce qu'on le fait en pratique? Et là, Pierre dit que nous devons être désirants. Nous devons désirer comme un petit bébé le lait de sa mère. Et il compare cela avec le lait intellectuel de la parole de Dieu. Donc le lait, la parole de Dieu, est toujours bon. Mais il faut avoir un désir. Et ainsi, un petit bébé qui a ce désir, là c'est bon de prendre ce lait-là. Et nous devons, même comme on a fait des progrès à l'école de Dieu, comme Jean l'explique dans 1 Jean 2, les pères, les jeunes et les petits, les bébés, nous devons tous avoir ce désir pour le lait. Donc, il faut réaliser cela. Le lait, dans la parole de Dieu, est pour la nourriture pour le bébé. Et là, il n'y a pas de mal, ça c'est bon. Mais si un bébé reste toujours un bébé, là il y a un problème. C'est ça le point. Si un bébé reste un bébé, il y a un problème. Il faut faire la croissance. Mais la condition spirituelle ici, désirait, avait besoin d'être améliorée, et on verra, Paul donne les remèdes pour que cette condition s'améliore. Et ainsi il travaille pour les Galates, on a vu cela, Galates 4, ainsi il présente les choses aux Corinthiens pour qu'ils jugent les empêchements. Par la jalousie, par la propre volonté, par la sagesse de ce monde, il restait sur le niveau d'un petit bébé. Et Paul ne pouvait que donner du lait. Mais ce n'est pas bon. Il veut qu'on fasse des progrès. Mais il ne faut pas conclure maintenant que 1 Pierre 2 dit la même chose. Non. 1 Pierre 2 souligne le désir qu'on devrait avoir tous pour cette parole. Comme un jeune bébé a un désir, nous devons tous âgés et jeunes, avoir ce désir pour le lait de la parole de Dieu. Je pense aux deux disciples d'Emmaüs, dans Luc 24. Ils étaient dans ce besoin-là, comme on voit ici. Ils avaient besoin d'être enseignés. Et quel était le moyen que le Seigneur a utilisé? Il fallait qu'il s'attache à sa personne. C'est quoi pour nous le moyen pour améliorer cette condition-là? C'est l'attachement à sa personne. Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans la maison des deux disciples d'Emmaüs? Il a pris la place de l'hôte dans la maison. Il a rompu le pain, c'est pas la fraction du pain, c'était un repas. Il a pris la place du chef de la maison. Et tout d'un coup, ils l'ont vu, ses mains percées, et là, ils ont réalisé, c'est le Seigneur. Et là, ils ont réalisé que leur cœur avait commencé à brûler en dedans d'eux. Donc, le Seigneur se présente dans sa beauté. Ça, c'est le seul remède. Lorsqu'on présente à nous-mêmes la personne du Seigneur Jésus, dans sa grandeur, dans sa beauté, psaume 45, le reste fidèle sera dans la grande tribulation, beaucoup de troubles, beaucoup de peines, beaucoup de plaintes. Donc 42, 43, 44, ils voient le Seigneur par la foi, tout change. Pour nous, c'est leur seul remède. Nous devons fixer nos regards sur le Seigneur, comme chapitre 12 le dit, tout le temps. Être attachés à sa personne, nous serons capables d'accepter cet enseignement. Donc, Paul est très sage comme docteur. Il s'adresse d'abord à la condition spirituelle. Il sait, si ça s'améliore, là je peux continuer pour donner cet enseignement, comme on verra au chapitre 7 et suivant. Encore un mot sur les bébés. Éphésiens 4, lorsqu'on a étudié Éphésiens 4, on a vu que c'est l'effort de l'ennemi pour garder les croyants sur ce niveau d'un bébé. Pourquoi? Parce que là, un bébé peut être ballotté par tout vent de doctrine, facilement. Tandis qu'un homme fait, qui sait où il se tient là, comme on a vu dans Colossiens 1, il sait ce qu'il doit faire. Et pas l'ennemi ne peut pas facilement le détourner. À la fin du verset 14, mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Donc je répète, la nourriture solide, dans le contexte de l'Épître aux Hébreux, veut dire les choses par rapport à Christ, comme il est maintenant dans la gloire. Ça va ensemble avec la parole de la justice. Dieu l'a couronné de gloire et d'honneur. Nous voyons la beauté du Seigneur Jésus. Tandis que le lait va ensemble avec le début, et pas seulement cela, va ensemble avec les principes que Dieu avait établis dans le judaïsme. Par exemple, Jean le baptiseur. Il y a beaucoup de bonnes choses que Jean le baptiseur a présentées. Mais on ne va pas rester sur ce niveau-là. On va avancer. Et ceux qui veulent continuer ont les sens exercés à discerner le bien et le mal. Maintenant, j'aimerais donc dire un mot sur la perfection. On a parlé de la perfection par rapport au Seigneur Jésus consommé. Maintenant, au verset... les hommes faits. Là, nous avons donc un état spirituel qui est souvent traduit comme parfait ou dans l'original ici, dans chapitre 5, verset 14, les hommes faits, c'est les hommes parfaits, littéralement, ou qui ont atteint le but. Maintenant, donc, c'est pour ça que j'aimerais dire un mot sur la perfection. On verra plus tard, dans chapitre 9 et 10, que nous sommes parfaits par l'œuvre de Christ. L'œuvre accomplie du Christ nous a rendus parfaits devant Dieu. Il y a d'autres passages dans la parole qui nous montrent que nous serons parfaits lorsque nous serons dans la gloire. Il n'y a aucune question là-dessus. Lorsque nous serons avec le Seigneur, nous serons parfaits. Mais Dieu cherche un état spirituel qui est conforme à ses pensées-là. Et ça, c'est la question de la maturité, comme j'ai mentionné dans Colossiens 1, verset 28. Et d'autres passages nous parlent de cette maturité spirituelle. Les hommes faits, et dans l'original, ça va ensemble avec la pensée de la perfection. Et il y a un verset dans 1 Corinthiens 2, qui dit, Paul parle là, il dit, nous parlons la sagesse de Dieu parmi les parfaits, ceux qui sont parfaits. Là, ça veut dire ceux qui ont une attitude spirituelle. Donc ce que j'aimerais résumer ici, les hommes faits, ce n'est pas l'avenir où nous sommes dans la gloire. Ce n'est pas ici pour montrer notre position en Christ qui est parfaite. Non, c'est ici une attitude spirituelle, la croissance spirituelle, mais aussi une attitude spirituelle pour recevoir les pensées de Dieu. C'est ça le point à saisir. Comme Paul dit dans 1 Corinthiens 2, nous parlons de la sagesse de Dieu au milieu de ceux qui sont parfaits. Je dis avec un propre mot, mais là ça veut dire ceux qui ont une attitude spirituelle qui est bonne. Les jeunes croyants avec nous peuvent avoir une bonne attitude et dans ce sens-là être parfaits. Une bonne attitude pour recevoir la parole de Dieu. C'est ça la question. Si nous sommes plus avancés, il faut garder cette attitude. Une bonne attitude pour recevoir la parole de Dieu. Et ainsi, on va faire des progrès. Et ainsi, on aura aussi les sens exercés pour discerner. Ça nous parle donc d'entraînement. Exercer veut dire il y a une éducation, il y a des efforts pour être éduqué et entraîné. Il y a aussi une référence aux habitudes. Par habitude, on devient exercé. Lorsqu'on s'occupe des choses de Dieu, on entre davantage dans les pensées de Dieu. Et ainsi, on aura donc pratiquement une condition spirituelle et aussi une maturité, comme nous avons vu, pour discerner le bien et le mal. Et dans le contexte, on verra donc le bien, c'est par rapport aux choses de Christ comme il est maintenant dans la gloire, la parole de la justice, la nourriture solide, tandis que le mal, c'est par rapport à ceux qui voulaient s'attacher au judaïsme que Dieu avait mis de côté. Donc le discernement est très important, un discernement spirituel. Ça prend aussi cette pensée-là, être dans la présence de Dieu. Comme on verra plus tard dans cet épître, les croyants sont dans la présence immédiate de Dieu. Et lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous voyons les choses comme Dieu les voit. Ça, c'est aussi impliqué ici. Les sens exercés, nous sommes ici sur la terre, dans le désert, mais en même temps, nous avons libre accès au sanctuaire. Et nous aimons voir les choses comme les chérubins les voient, par exemple. Les chérubins maintiennent toujours les droits de Dieu, la gloire de Dieu, si Dieu veut que nous soyons en accord avec ses pensées, pour discerner ses pensées. Et on verra donc la prochaine fois le restant de cette parenthèse qui souligne donc l'importance de se détacher du judaïsme comme religion charnelle qui avait rejeté le Messie, mais d'un autre côté s'attacher davantage au Seigneur Jésus, et on verra à la fin du chapitre 6 comment il...